I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, par contre, t'es un peu trop à la cool, là. Yana, va falloir que tu te mettes devant le micro.
Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Alors, cette semaine, le choix du film me tenait à cœur à la base, hein, parce que j'avais beaucoup aimé quand j'avais 15 ans. Et en fait, je l'ai revu pour les besoins de ce podcast. Et ben, en fait, ça n'a pas très, très bien vieilli. Alors, en vrai, je suis pas sûr que c'était si bien que ça, mais peut-être que c'était ma vision de gosse de 15 ans, fan de grosses séries B bourrines. Ce film, c'est Type Bomb d'Annie Leschner. Et je suis avec mon ami Yannick Dahan pour en parler. Salut Yann.
Salut.
Alors, toi, t'as jamais vraiment aimé.
Moi, j'ai jamais aimé. Voilà, mais moi, j'étais comme toi. Hein, je cherchais à regarder des films bourrins. Avec beaucoup de fusillades, beaucoup d'explosions, ça me plaisait beaucoup à 15 balais. Et déjà à l'époque, j'avais trouvé tout naze le film.
Écoute, moi j'avais trouvé ça super cool quoi. Bah, bon, après, c'est peut-être parce qu'on a 4 ans d'écart aussi. Donc,
peut-être. Ouais. Et puis, non, mais.
T'étais déjà plus mature et adulte.
Ce qui n'empêche pas que j'ai souvenir, alors peut-être à tort et je ne sais pas pour quelle raison, qu'il faisait fantasmer avant qu'on le voie. Il y avait quand même une envie d'aller le voir. Probablement Michael Biehn jouait. Voilà, dans ce fantasme-là. Moi, je me rappelle qu'on nous parlait de ce réalisateur israélien et qu'il y avait une espèce de réalisme dans la gestion, tu vois, de l'action façon commando israélien ou tout ce que tu veux. Puis quand j'ai vu le film, j'ai trouvé tout pété déjà à l'époque, quoi.
Écoute, alors, on va peut-être situer un petit peu ce que ça raconte, l'histoire de Time Bomb. Time Bomb, c'est l'histoire de Eddie Kay, le personnage de... Joué par Michael Biehn, merci. Qui en fait est un simple, en apparence en tout cas, un
horloger.
Simple horloger, voilà, c'est ça.
Déjà, bah, c'est crédible.
Mais c'est Time Bomb, quoi, tu vois, voilà. Tu sais. C'est un simple horloger en fait qui un jour en fait sauve d'une explosion. Dramatique, ouais. Parce que c'est quand même aussi, ça on va en parler aussi, du côté un peu bourrin du film, quoi. Il saute d'une explosion, en fait, une femme et son bébé, et devient instantanément un héros qui passe à la télévision, et d'un seul coup, des personnes qui le connaissaient d'avant le reconnaissent, et décident qu'il faut l'abattre, parce qu'il se trouve qu'il était en vérité un agent dormant, en fait, qui a subi un lavage de cerveau.
Ouais, pour... Améliorer, c'est toujours la même technique, ouais. Du soldat amélioré. Alors là, c'est pas la technique mentale, mais, ouais. Mais voilà.
En fait, c'est on appelle ça une sleeping cell, en fait, si tu veux, qui est activée en général pour tuer commettre des assassinats voilà. Spécifiques, quoi.
Ce qui était le même pitch que y a-t-il un flic pour sauver là.
C'est pas faux.
Donc, et quelques années avant Au revoir à jamais.
Ouais,
tu
ouais.
Vois
donc... oui, mais sauf qu'Au revoir à jamais, c'était encore un autre sujet. Mais de toute façon, c'est une idée assez pulp hein, dans l'esprit.
Ouais.
Voilà. Et pour un traitement,
pourri.
moi, j'allais dire de série B d'action de cette époque-là, c'est-à-dire que ça ressemble clairement à des films comme Dark Angel.
C'est comme, ça, c'était typiquement dans ce genre-là.
Voilà.
Mais d'ailleurs, le film devait être incarné au départ, enfin, les producteurs voulaient au départ Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme pour jouer le rôle titre.
Qui étaient des gros, des grosses stars d'action bankable à cette époque-là, ouais. En tout cas pour ce type de budget, parce que c'est un tout petit budget aussi. Alors, c'est un tout petit budget. C'est un budget à 5-6 millions de dollars. Il me semble que MGM était prête, United Artists était prêt à mettre 10 millions justement s'ils avaient un Chuck ou un Van Damme.
Ils voulaient pas mettre plus de 10 millions sur le film.
De toute façon.
Et qu'avec avec Jean-Claude Van Damme, je crois, ou Chuck Norris aurait sans doute coûté un peu plus cher. Ouais. Mais surtout, c'est Avin Escher qui voulait absolument avoir Michael Biehn dans le rôle.
Voilà, et Michael Biehn qui avait quand même une aura de leading man, en fait, de premier rôle, parce que justement, c'était l'acteur principal de Terminator, enfin l'acteur principal,
oui.
le héros de Terminator masculin. Même si c'est le troisième personnage en vrai, dans l'intrigue du film, puisqu'il y a le Terminator et il y a Sarah Connor, quoi. Je vais essayer d'être un tant soit peu objectif dans l'absolu.
C'est tout pourri. Je peux pas être plus objectif que ça.
Essayons, non, mais essayons d'être un tant soit peu objectif sur les intentions de David Escher.
Oui.
Pour moi, si tu regardes le film de tel qu'il est construit sur le papier, je pense que la source d'inspiration de David Escher, c'est déjà en fait Manchurian Candidate,
ouais.
C'est-à-dire un crime dans la tête de John Frankenheimer, un film des années 60, qui fonctionne sur des idées similaires. Alors là, évidemment,
on est loin. Hein. Mais bon,
On est loin de la qualité du film de Frankenheimer. On est aussi assez loin du traitement psychologique, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus un film d'action et donc. Un récit qui, au fur et à mesure, de fuite, c'est-à-dire que le personnage de Michael Biehn cherche à fuir ses opposants, enfin à ceux qui cherchent à le tuer, quoi. Sur le papier, il y a quand même cette volonté-là, en fait, de traiter d'un personnage dont la mémoire, en fait, va être effacée pour servir des intérêts anti-démocratiques. Donc voilà, c'est assez classique, effectivement, mais pour le gosse de 15 ans qui était comme moi, qui n'avait pas encore vu effectivement Manchurian Candidate à l'époque, quoi, un crime dans la tête, je me disais, putain, mais c'est une super idée. C'est incroyable, on l'a jamais fait, ce truc, tu vois. C'est formidable, quoi. Et en plus, alors, il y a des gros sets d'action, il y a des gros flingues qui font pouit-pouit, tu vois, comme ça. Donc,
bah, ouais, alors après... Moi, le film, je sais. Alors, si tu veux qu'on soit tout à fait objectif.
Non, quand je dis objectif, c'est objectif sur les intentions, sur parce les qu'après, intentions, on va parler de ce qu'on pense du film, évidemment.
Ce qui s'est passé, ouais. Parce que je pense qu'aussi. Enfin, moi, j'entends encore des gens parler de Time Bomb. Alors, bon, est-ce que vraiment il y a eu une génération de types comme toi qui ont surkiffé ce qui, à l'époque, était déjà pour moi une série Z par rapport à une série B, justement, à la Dark Angel, quoi, si tu veux.
Faudrait que tu revoies Dark Angel.
Probablement. Est-ce que c'est le fait qu'il ait gagné un Grand Prix, je sais plus, je crois que c'était à Voriaz ou un truc comme ça. Enfin, il a gagné un Grand Prix à un moment donné dans un festival qui lui a donné une espèce de petite aura, je pense. Et puis on continue à parler de ce film comme s'il était une sorte de référence, justement, du B-movie d'action des années 80, alors que franchement, il y a quand même des trucs qui sont mille fois plus intéressants que ça, mille fois plus tenus en fabrication, même, j'ai envie de dire, même si on sait que Jean-Claude Van Damme ou Dolph Lundgren ne sont pas les plus grands acteurs du monde, là quand même, là on touche quand même à un point sensible. Enfin, moi, c'est le Time Bomb, c'est une caricature d'interprétation de la première à la dernière image. Je crois que j'ai rarement vu des seconds couteaux aussi ridicules dans un film depuis très très longtemps. Alors, je l'ai revu, hein, c'est-à-dire là, je me suis pas tapé la vingtaine de nanars des années 80 d'affilée pour me faire un ratio entre lequel est vraiment le plus pourri et lequel est le plus sympa. Mais là, putain, c'est rude, quoi. Parce que, pour que Patsy Kensit arrive à être apparemment la plus sobre de tout le film, c'est qu'on est arrivé à un degré de nullité qui est quand même cosmique. Moi, j'aime bien Michael Biehn, j'aime beaucoup, j'adore son brushing et tout dans le film. Et il est à fond, tu sens qu'il y croit. Mais il est dans l'overdrama. Mais le pire, c'est la bande à Billy Blanks derrière, à Richard Jordan. Et cette espèce de gros blond rasé là, musclé de partout, tu sais qui.
Ah bah lui il est génial.
Mais lui t'as l'impression qu'à chaque fois il se met dans une position où il fait une flexion des genoux, il monte son boule. Moi j'avais toujours j'attendais toujours qu'il y ait la musique de Michael Youn derrière qui était j'aime trop ton boule. J'avais l'impression de voir ça. Non mais
tu peux pas vanner le film si t'as des références de merde.
Je sais, mais c'est pas grave. Non le. Alors, grosso modo, hormis tout ce que tu vas dire par la suite, on le sait déjà, la chipitude, la réelle qui est quand même à l'ouest, malgré une ou deux bonnes idées qui sont d'ailleurs restées dans l'esprit des gens. Hein. Je pense que le latage de gueule du mec à travers Andra, c'est resté dans l'esprit des gens.
Ouais, ouais.
Mais moi, la première réflexion que je me suis fait en regardant le film au bout d'un quart d'heure, j'avais l'impression de voir un film d'action muet d'avant 1929. Chaque fois que les personnages marchent, font un geste, réagissent, t'as cette espèce de pose qui se fiche, dont jusqu'ici Jean-Claude Van Damme était le digne héritier dans la plupart de ses films. Et là, je trouve 15 acteurs qui font tous la même chose pendant le film. Et j'ai trouvé ça, mais à se pisser de rire du début jusqu'à la fin. Et je finis.
Ouais.
Et je te laisse parler.
Vas-y.
Et malgré tout, j'ai un énorme mystère. C'est que tu enclenches le film. Alors, est-ce que c'est le fantasme années 80? Est-ce que c'est les brushings? Est-ce que c'est je sais pas quoi? L'action un peu violente. Mais tu restes, tu regardes le truc. Je l'ai regardé jusqu'au bout sans me faire chier, en me moquant les trois quarts du temps, mais sans me faire chier, tu vois. Alors que d'autres pourraient t'ennuyer beaucoup plus rapidement.
C'était
donc il y a un truc, je sais pas. Je sais
moi,
pas
pour moi, ça a été pénible, hein, à revoir. À ma grande surprise, hein, parce que encore une fois, en fait, même la dernière fois que je l'avais vu, il y a peut-être 15 ans, hein,
ouais.
20 ans peut-être maintenant, hein, c'est peut-être un peu, je te dis, oh, ça va.
Il n'y a pas de problème.
Et en fait, ça va pas du tout. Alors le gros chauve dont tu parles, c'est Jim Magnatti. Alors Jim Magnatti, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il apparaît dans Armageddon. c'est un des beaufs en fait avec lesquels ils se foutent sur la gueule dans une boîte de nuit, tu vois.
Bah
moi
j'ai fait la
connexion
quoi.
Bah moi j'ai fait la connexion parce que je me rappelle toujours de la punchline de Steve Buscemi qui claque son pognon parce qu'il est persuadé qu'il va mourir en Armageddon, tu sais, qu'il va crever dans l'espace, tu vois. Donc il a emprunté 100 000 $ à un usurier, tu vois, et il pense qu'il va pas devoir les rendre quoi. Et donc en fait, il les claque à tout va et puis t'as ce mec qui arrive, c'est un cascadeur le type à la base. Il arrive, il lui dit "Ouais, t'es en train de foutre le bordel dans la boîte de nuit" et l'autre il lui jette un billet sur la gueule, il va t'acheter un coup. Et je me suis dit c'est vrai qu'il a pas de coup le mec. C'est ce que je m'étais dit à l'époque. C'est pour ça que la punchline m'est restée.
Mais un truc qui va pas, c'est-à-dire que tu veux te la jouer, alors Avin Escher qui veut peut-être se la jouer véritablement technique du Mossad et tout, dans son film je vais vous montrer comment on fait les choses véritablement, bah tu vas pas choisir deux bourrins ultra musculeux pour aller leur mettre des costumes serre-fesses. Bah non, Billy Blanks, moi je l'ai toujours vu torse nu, Billy Blanks. J'ai toujours torse nu en train de donner des coups de tatane.
Et c'est 2000
là. Mais voilà, c'est ça. Et alors là, tout d'un coup, on te les met dans des costumes, genre attention, on est un peu plus sérieux, un peu plus noble. Et ils ont des gestuels, c'est juste pas possible. En fait, le truc qui est hyper drôle à regarder quand tu regardes Time Bomb, c'est la réflexion que je t'avais fait tout à l'heure, c'est tu regardes ce que font Billy Blanks et tous les autres second rôle quand ils sont pas au premier plan d'un cadre. Quand tu vois Richard Jordan qui est en train de faire son très très grand méchant au téléphone, tu regardes ce que font les autres derrière et tu te tapes des barres. Les mecs, ils savent pas du tout quoi faire. Ils regardent en l'air, ils remettent leur chemise. Mais t'es là, tu dis, mais
en fait, c'est terrible.
C'est pas mis en scène. Ce n'est jamais mis en scène.
C'est terrible parce qu'en fait, moi j'étais parti quand on a choisi ce film. Je m'étais dit on va faire découvrir aux gens une petite série B sympa, brute de décoffrage, dynamique, avec une vraie économie de moyens, mais en fait voilà, et c'est exactement ce que j'avais en tête, c'est-à-dire avant de revoir le film, c'est-à-dire pour moi c'était ça, avec cette volonté de raconter quelque chose, certes un petit peu galvaudé dans un truc,
on avait tout déjà vu,
voilà, mais quand même plutôt cool, plutôt sympa, et effectivement avec un acteur qui porte le film, un bon acteur de manière générale, moi je suis pas aussi dur avec Michael Biehn que toi.
Moi je les trouve tous mauvais. Mais je pense que c'est pas forcément la faute de Michael Biehn. Je pense qu'il y a un mec en face qui sait pas diriger des acteurs, qui sait pas où mettre sa caméra.
Bien entendu.
Qui te repompe des plans entiers de Terminator. Mais tu dis, non mais mec, t'avais juste à copier le plan de Terminator. Comment t'arrives à le rendre 100 000 fois plus moche en fait? Donc, non.
Et avec cette volonté dans le film en fait de raconter quelque chose à travers, par exemple, je me rappelle qu'il y avait c'est ce que je me rappelais, puis c'est dans le film pour le coup, des flashbacks. À la Hitchcock et à la De Palma, tu vois, mais attention, je dis bien attention parce que je pense que c'est sa référence au mec, mais effectivement, le résultat est ringard. Et pourquoi aussi? C'est-à-dire qu'en gros, c'est un film qui a donc coûté peu d'argent, mais ce qui est très étonnant, c'est que par exemple, quand c'est tourné dans Los Angeles, dans les rues, ça va à peu près, c'est pas un film, tu vois, voilà, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de décors. Et en fait, mais dès le début, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un décor de diner américain au début, et c'est dans Seinfeld, c'est plus réaliste.
Ouais.
Donc c'est ça qui est assez hallucinant.
Le pire
c'est dans
étant celui de la fin, là. Le pire étant l'espèce de labo militaire là.
Alors t'as un labo militaire hyper cheap, t'as un parking hyper cheap, parce que tu sens que c'est pas. En fait, tu sens que les mecs, en fait, ils ont reconstruit les décors au fur et à mesure, en fait, sur les trucs. T'as un commissariat, il y a personne dedans. Enfin, c'est hallucinant. C'est vraiment. Tu parlais d'y a-t-il un flic, mais en fait, dans Police Squad, les commissariats, c'était comme ça, en fait. Sauf que là, c'est une comédie, donc on s'en fout.
C'est ça.
Tu vois, c'est-à-dire, tu vois c'est que ça. C'est un décor, mais tu t'en branles.
Mais t'as raison
fait,
sur le... Et d'ailleurs, je pense que ça participe aussi du petit plaisir que j'ai eu. C'est vrai que quand je regarde le film au départ, bon, hormis que même déjà à l'époque, je trouvais ridicule Michael Biehn avec son VTT, là, genre en mode horloger, c'était naze. Et surtout, et ce que j'aime beaucoup, c'est Patty Kensit qui arrive et qui, tout d'un coup, très sérieuse, te dit qu'elle est, je sais pas, psychanalyste cognitive ou je sais pas. Tu dis, mais non, les mecs, au moins dans Roadhouse, on en rigolait. Là, c'est très vraiment premier degré. Mais effectivement, t'as cette espèce de saveur purement 80s dans la scène de l'incendie au départ, les bagnoles, tu vois, il y a une texture qui te file la banane. C'est-à-dire, on dit que c'est de la merde parce que c'est de la merde, faut être honnête. Par contre, ça dépend comment tu regardes le truc. Tu peux le regarder avec cette espèce de vieille petite nostalgie du film qui t'a fait marrer quand t'étais ado et tu dis oh bon ouais, c'est sympathique, je regarde. Ou alors tu dis objectivement
mais c'est ce qui est terrible avec ce podcast, c'est-à-dire qu'en fait moi il est complètement piraté ce podcast. Moi j'étais parti pour encore une fois pour défendre un petit film, tu vois, que je peux même plus vraiment défendre en vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas retenir en fait d'un film comme ça? C'est-à-dire que aujourd'hui,
hormis la scène de baise avec Patty Kensit et le mec qui démastique à travers un drap, moi, mais je veux dire, rien d'autre à retenir du film.
Ce qui est marrant avec cette scène de cul, C'est que d'ailleurs, même si elle est très très courte hein, dans le film, et moi je me rappelle qu'elle était marquante parce que c'est en fait les deux acteurs qui ont expliqué à Avinesher.
Ouais.
Effectivement, Avinesher, tu l'as pointé du doigt, on l'a souligné, mais c'est vrai, il faut le signaler. C'est un réalisateur à la base israélien qui a émigré aux États-Unis quand il avait une quinzaine d'années, qui aujourd'hui en fait a une carrière complètement à Israël parce que voilà.
C'est un malin le mec. Ouais, c'est un malin. En fait, il voulait faire des films à la con avec Olivier Grunet et Jean-Claude Van Damme.
Grunet.
Et puis il s'est rendu compte que merde, ça marche pas, c'est un peu nul la série Z. Alors après, je vais aller faire des trucs un peu pseudo-intelligents sur les problèmes de la société en Israël. Et tout d'un coup, tout le monde le trouve génial.
Oui, alors après, c'est pas des films qui sont vraiment ici. Hein,
non, mais c'est des films qui lui donne une espèce de d'aura de noblesse
il tourne
dans le milieu arty même si le mec il sait toujours pas tenir une caméra
Après Avinesher je pense que en fait il a
fait deux Olivier Grunner quand même
le jour où il va mourir dans quelques années enfin quelques décennies peut-être même on se rappellera plus de Time Bomb que de ses films israéliens je pense à mon sens hein, tu vois en tout cas dans à l'échelle mondiale si tant est qu'on se rappelle de son œuvre dans l'absolu jusqu'ici en tout cas mais le truc c'est que c'est un type qui a effectivement connu les entraînements militaires israéliens, et c'est quand même pas détendre hein, en Israël, ils ont vraiment des entraînements très très durs quoi. Donc c'est quelqu'un qui je pense en fait à la base c'était pas forcément être cinéaste avant de finalement le faire des films quoi. Et en gros, d'ailleurs, lui-même, il disait qu'il n'était pas très fier de ses premiers films. Hein. À l'époque de Time Bomb, je me rappelle une interview où il disait « Ah, mais moi, mes premiers films, ils sont pas bons, alors que là, c'est mon premier vrai film pour moi et tout. » Tu vois. Donc, en fait, si tu veux...
On a dû l'interview de 10 ans.
Non, mais c'est terrible parce que je te dis, voilà, il y a ce truc en fait, où tu as toutes ces volontés-là et qu'est-ce que tu peux retenir finalement ? Donc, tu as cette scène de cul où effectivement, les acteurs ont dit « Ça serait bien en fait, que dans le flux de l'action, en fait, si on doit faire une scène de sexe, parce que je pense que c'est un film d'exploitation pure et dure, je pense que c'était un truc où ils se sont dit « On va le mettre dans le film, tu vois, y a pas de site, elle est mignonne comme tout, on va la montrer nue, tu vois. Michael Biehn n'est pas dégueulasse non plus, dans l'absolu, hein, si t'es une femme, quoi. Donc le truc, si tu veux, c'est que pour ce public-là, si tu veux, pour vendre le film, il y avait cette idée de mettre une scène de cul, et eux, en fait, ont décidé de la traiter de manière assez brutale. C'est pour ça qu'elle était marquante à l'époque. Aujourd'hui, bon, c'est très rapide, ça dure même pas 40 secondes, je crois, tu vois. Et effectivement, il y a une brutalité. C'est-à-dire qu'il y a dans le film une certaine brutalité dans cette scène juste après, d'ailleurs, parce que tu l'évoques comme ça très rapidement, il faut le dire ce que c'est cette scène.
Non, mais cette scène, il enroule un drap de
lit, là,
ouais,
autour de la tête du mec, c'est Jim Magnaci, d'ailleurs, tu vois. Et en fait, lui éclate la gueule à travers, avec des coups de coude à travers le drap, quoi. Et du coup, le truc qui apparaît, c'est le sang du mec, en fait, qui se fait littéralement éclater. Et franchement, là où ça fonctionne, c'est que tu te dis, ok, ce mec qu'on a vu, qui est un gros veau depuis une heure là dans le film, en fait, qui leur court derrière, qui effectivement roule du cul dans son pantalon, taille trois fois trop serré, quoi. Tu crois qu'il est mort. T'y crois, c'est-à-dire que ça fonctionne en fait. Il y a aussi pareil, une scène de torture où il utilise, Steven reprendra cette idée d'ailleurs plus tard dans Terrain Miné, où il utilise des bouteilles de, comment t'appelles ça, d'Evian, tu vois, comme silencieux. Tu vois,
c'est vrai,
pour tirer dans les jambes de la nana et tout, tu vois. Et ça, c'est pareil. Tu vois, moi, à l'époque, je me disais, putain, mais c'est badass.
C'est le syndrome du mec qui, sans doute, a sorti de la réalité des petites choses qu'on n'avait jamais vues, des petites idées plutôt marrantes, et il a focalisé là-dessus, que juste tout l'enrobage, il est pas possible. D'ailleurs, tout le monde ne te parlait que de ça. En fin, quand on évoque avec n'importe qui Time Bomb, il va te dire, ah ouais, le mec qui se fait taper à coups de coude. Donc, voilà, c'est tout ce qui reste, en fait. Il faut arrêter de rêver, c'est tout ce qui reste.
Ouais, mais tu peux pas dire ça.
Bah si, je le dis. Parce que j'ai déjà perdu deux heures dans ma vie pour regarder ce truc-là.
C'est la deuxième fois que tu le voyais.
Ah bah, j'avais vu à l'époque, et puis là, c'est...
Oui, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire, on parle de l'aura du film, mais en fait, il y a ce truc qu'il faut spécifier. Aujourd'hui, les gens, tu regardes un film comme ça, admettons, des gens écoutent notre podcast, ils sont outrés. Outrés par le fait que, mais moi, je me rappelais que c'était un très bon film, etc.
Revoyez-le,
certes. Mais aussi, il y a cette notion, c'est qu'un film comme ça, déjà, c'est du pur produit des TV, je veux dire, dans les années, fin des années 90, milieu des années 2000. C'est rien d'autre, c'est surtout avec un mec comme Michael Biehn. Mais en plus, aujourd'hui, ça serait du direct ou Netflix en fond de catalogue, tout bas.
Clairement.
Le truc, c'est qu'à l'époque où il y avait beaucoup moins de contenu, ce film-là sortait en salle. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu en salle à l'époque, je veux dire. Et c'est aussi ça, je pense, qui crédite une certaine aura au film, parce que Aujourd'hui,
on n'a pas American Ninja n'a pas gardé une aura fondamentale. Pour beaucoup de gens, il est sorti au cinéma aussi. Non, gens, et j'en ai un meilleur souvenir que Time Bomb.
Alors non, les gens avaient conscience que c'était quand même du gros nanar parce que déjà, en fait, si tu veux, un truc comme American Ninja, il y a déjà une première problématique, c'est le titre. American Ninja. C'est-à-dire quand tu colles
c'est
deux mots, quand même. Ouais, ouais. Mais quand t'as un personnage japonais, tu vois, quand t'as une figure mythologique tu vois, japonaise et que tu la colles à American, tu sais déjà que ça va être un gars. Tu vois, et le truc, si tu veux, c'est que moi j'aime bien Dudikoff aussi, il est sympathique, mais alors, déjà, c'est pas un très
mais grand, tu vois, ce genre
acteur.
De...
Mais ce que je voulais dire par rapport à American Ninja, c'est que c'est dans la canon. Donc on le savait déjà que c'était de la merde en fait si tu veux en fait alors de la merde tout à
mais
fait
qu'on kiffait, mais
ah ouais
kiffait.
Voilà c'est tout à fait comment dire sympathique voilà et enfin respectable
non pas respectable fait, mais sympathique
jouissive à regarder tu vois ouais. Mais
mais du coup tu vois le fait qu'on reparle de Time Bomb et que je l'ai revu hier pour la première fois 20 ans au moins
bah, me plus, donne ça bientôt 30 ans
peut-être bientôt 30 ans me donne très envie qu'on fasse des stéroïdes sur justement des Dark Angel des Hidden
alors, Dark
des,
Angel,
des American pris. Ninja j'aimerais bien revoir ces films pour une échelle des valeurs a posteriori alors, sur lesquelles sont chipouilles, lesquelles sont vraiment fun, lesquelles sont tout
Dark
pétées.
Angel, Dark Angel oublie, on l'a fait avec Arnaud.
Non, mais...
voilà, donc bah oui, mais tu peux pas tout faire, Yannick, tu vois.
Moi, sur ce genre de film,
mais
je
American
devrais
Ninja,
tout
faire. On va en reparler. American Ninja, on va reparler. On verra. Tu
parce
vois.
Qu'il y a en plus une embrouille, parce qu'il y a American Ninja, American Warrior, American Ninja 2. Ils avaient traduit les films différemment en fonction des vrais suites, je me rappelle de ça.
Le Ninja Blanc.
Le Ninja Blanc, qui était en fait American.
Ouais,
Warrior,
je sais plus.
Ninja,
ouais.
Je ne sais
écoute,
plus.
Écoute, j'ai pas potassé. Mais
bon,
fait,
l'époque Steve
revoir.
James et tout ça, moi j'aimerais bien revoir quoi.
Écoute, si tu veux, on repartira là-dessus quoi. Ah, mais
Richard Norton, Billy Blank, c'est magnifique. Quand même.
Billy Blank, c'était ses 2000. Alors, moi j'ai une anecdote absolument comment dire, horrible sur. C'est-à-dire que je me disais que ces films-là, ils intéressaient que. Parce que c'est des films de vidéoclub, hein, on est d'accord, ouais, tu vois. Ces films-là, ils intéressaient que les mecs, tu vois, les mecs en mal de films.
En mal de Schwarzy et de trucs comme
voilà.
Ça.
Et j'avais des potes qui bossaient dans un vidéoclub à l'époque, et du coup, c'est ancré dans ma mémoire. C'est-à-dire, je me rappelle, je l'ai vu, TC 2001. Mmh. Parce que je regardais tous ces films à l'époque, hein, tu vois, les Némésis 2,
ouais,
tout ça, je les regarde. Némésis, c'est pas mal à Berkeley.
Ouais, je sais, il y avait des trucs
voilà.
Pas mal.
TC 2000 avec Billy Blank, ce qui était, je me suis dit, putain, c'est le gros bourrin du début du Dernier Samaritain, le gros bourrin de Time Bomb. Il faut absolument que je vois TC 2000, tu vois. Genre, ton esprit fonctionne d'une certaine manière, tu vois. Et je me disais, c'est des films, en fait, ça intéresse que les gamins tardés comme moi, tu vois.
Ouais.
Et en fait, étrangement, non. Dans ce vidéoclub, je me rappelle qu'il y avait deux sœurs qui venaient. Qui n'était pas très gracieuse, on va dire, hein, disons-le comme ça, sans vouloir être méchant, tu vois, j'espère qu'elle ne nous écoute pas, qu'elle ne va pas se reconnaître, tu vois, et qui tripait sur tous ces films, juste en fait sur le physique des mecs. C'est-à-dire qu'elle louait, elle disait, putain, mais regarde, il est magnifique, et tout, etc. Ouais, et elle prenait les. Donc je me disais, putain, il y a quand même un public aussi pour ça, ouais, féminin,
bien sûr,
tu vois.
Sûr.
Oui, oui, mais c'est étonnant, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, TC 2000, je me rappelle plus du film, mais je me rappelle de ça. C'est quand même.
Je me rappelle plus du film non plus.
En plus, TC 2000.
Il faudrait qu'on le fasse,
mais je pense qu'on va pleurer là.
Ah, là c'est voilà, très dur.
Et puis les gens vont nous faire, mais de quoi vous parlez? Parce que Time Bomb, c'est sorti en salle. C'est ça le truc, c'est Time Bomb, en fait, il a cette aura dont tu parlais, ce culte, on va dire. Admettons que moi, je pouvais maintenir jusque-là. À cause justement de cette sortie en salle, à cause de Michael Biehn, à cause d'un côté
films.
Un peu brut de décoffrage.
Moi, je trouverais intéressant qu'on se remette ceux qui sont restés dans notre esprit comme des petites perles, c'est-à-dire enfin, des petits trucs intéressants où on savait que c'était pas les nanars qu'on se tapait à l'appel, du style Drive avec Marc Dacascos.
Ah, c'est cool.
Tu vois,
enfin,
non, mais,
c'est cool, mais je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu non plus, tu vois. Genre, il y a des trucs comme ça, moi. Enfin, j'ai pas tous les titres en tête, mais tu vois, les Némésis, comme tu disais, c'était des films, on les différenciait, on les sortait du lot un petit peu, tu
voilà,
vois.
Voilà, alors Némésis, c'était la Rolls-Royce de la série B de TV hein, à l'époque. Hein.
Jeff Speakman j'aimerais bien revoir L'arme parfaite.
Qu'il avait une tronche de présentateur télé de merde, tu vois, Jeff Speakman. Il manque de charisme, sauf son respect, hein, tu vois, évidemment.
Ouais, mais c'était un bon film facho, je crois. Il était très drôle parce qu'il était.
De quoi, L'arme parfaite?
L'arme parfaite, il était faf jusqu'au bout des ongles. Et c'était très fun à regarder.
C'était pas du Steven, hein.
Hein?
C'était pas du Steven.
Oh,
non, mais attends, tu parles de là, tu vas nous finir par nous demander de faire des Thomasian Griffiths ou des trucs comme ça.
Tout à fait, Cracker Jack! Et Cracker Jack 2 et Cracker Jack 3. Bah, moi, j'adorerais revoir tous ces trucs-là.
Donc, en fait c'est en train de devenir un podcast sur la série B à la con, là, tu vois. Alors qu'en fait, à la base, on était parti encore une fois pour défendre un film à peu près.
Oui, bah alors là, on l'avait pas revu. Ça fait partie du truc. Il y a des fois, des films ne résistent pas autant. Ouais. Et clairement, Time Bomb ne résiste pas autant.
C'est un crève-cœur, Yann.
Non!
Ah, moi, c'est un petit crève-cœur parce que,
en fait,
je te dis, ah non, c'est un petit crève-cœur parce que je l'avais. Alors, encore une fois, je l'ai pas revu depuis un moment, hein, ça faisait une vingtaine d'années que je l'avais pas revu. Mais ouais, c'est cette facture complètement, comment dire, cheap. Mais cheap à un point, en fait, en plus.
Ah bah oui.
Parce que, voilà, en fait, moi j'avais retenu, effectivement, on a parlé de la violence du mec qui se fait éclater là au coup de coude, mais t'as aussi, par exemple, à un moment donné, il y a une scène de nuit dans un hôpital où les mecs arrivent, ils ont. Alors, je sais pas pourquoi ils ont une minute, en fait, pour fumer tout le monde, et en fait, ils tuent des patients, des trucs comme ouais. ça. Je me suis dit, ah, c'est cool.
Ils sont nuls, parce que c'est des super tueurs qui sont juste en face du mec à chaque fois, ils le ratent tout le temps. Là, tu veux dire, là, quand même, c'est limite. Quoi.
C'est des trucs où on se fout de la gueule, en fait, sur des films comme Rambo. Tu sais, généralement, les gens qui regardent les films d'action un peu de haut, c'est vrai qu'ils ont tendance à se boucher le nez en disant, Rambo, toutes les balles.
Pas, crédible,
voilà, ouais. C'est pas crédible.
Non, mais là, c'est vraiment.
Voilà, sauf que là, c'est vrai, les mecs, ils sont, c'est censé être des. Comment t'appelles ça des, comme lui, hein, des agents, ouais, en fait, des sleeping cells. Oui. Et en fait, ils sont censés avoir été. Comment t'appelles ça ils sont censés avoir un lavage de cerveau pour qu'on leur fasse, en fait, pour qu'on en fasse des machines à tuer. Ouais. Et les mecs, ils ont des flingues qui crachent 2000 balles par minute.
Ouais, c'est rien comparé à la plus belle scène du film, qui est quand même celle où ils sont 5 comme ça, tueurs spécialisés, où ils se disent, il faut que ça ait l'air d'un accident. Et ils décident de le renverser avec une camionnette. Il y en a deux qui arrivent, ils font un tout petit pet de merde, ils disent dans l'air mort, oui, ok, ils se cassent. Mais les mecs, mais c'est pas possible, pas possible. Mais même dans un court-métrage français, on fait pas ça.
C'est vrai. Mais il y a aussi ce passage absolument incroyable, en fait, de scène d'action dans un cinéma.
Ah oui, ça c'était pas mal. Voilà. L'idée était pas mal. Là,
voilà,
coup,
où en fait il y a un boulard avec Victoria ça. Paris, parce que je l'ai reconnu.
Ouais, ouais.
Victoria Paris, hein, à l'époque, tu vois, quand même. Quoi.
Oh là là, on est tellement pas actuel dans nos propos.
C'est clair. Non, mais les jeunes ils comprennent pas Victoria Paris, c'est qui quoi,
ouais, bon,
enfin, voilà, tu vois. Mais bah oui, bah, parce qu'en fait aujourd'hui c'était même pas une vraie grande star du porno. Mais en fait elle apparaît sur l'écran, je fais oh, c'est Victoria Paris en voyant le film direct. Quoi. Et tu sens que c'est pareil, c'est un peu crapoteux comme idée, tu vois.
Ouais.
Un peu rigolote, tu vois.
Mais c'était une idée marrante. Ouais,
voilà,
idée marrante.
Parce que je suis même pas sûr que, en fait, même à cette époque-là, il y a encore des
cinémas.
Tu me dirais, il devait encore avoir des cinémas.
Le film avait certaines idées de situationnelles qui étaient marrantes. C'est plutôt, c'est comment te dire, c'est la mise en scène, c'est la scénographie où ça ne va jamais, en fait, jamais. Il ne sait pas. C'est comme si un mec, c'est comme si ces acteurs, c'était des bouts de viande, ils ne savaient pas quoi en faire. C'est genre, tu vois, il leur dit, vas-y, avance là, et puis fais ça, et puis rien ne marche, rien ne va. Tout a l'air à l'ouest, quoi. Hormis Michael Biehn, qui est au moins pétri de conviction pour son rôle, mais c'est le seul. Et il est tellement pétri de conviction qu'il en devient ridicule.
Après, tu sais, des acteurs, des trognes de série Z ou de série B, en fait, si tu veux, qui jouent comme des patates, tu vois, comme des sacs à patates, il y en a eu toujours
c'est
eu, hein, tu vois, c'est pas une nouveauté
là,
dans
Michael
Time Bomb.
Biehn,
mais, non, je parle pas de Michael Biehn, là, je parle vraiment des autres, hein, je parle de comment dire... bah, Billy Blanks qui est bon comment
c'est
dire voilà moi je l'aime bien Billy Blanks mais c'est vrai que c'est pas Laurence Olivier quoi
non, ça,
mais comment dire et pareil avec effectivement Jim Magnatti qui a une gueule de veau
enfin,
mais
même Richard Jordan il est mauvais comme un cochon quoi donc bon
ouais.
Bref voilà
bon, alors on lui a taillé le costard pour l'hiver là donc c'est bon ne faites peut-être pas comme nous en fait au final ne revoyez pas
ouais,
si vous avez un bon souvenir peut-être que en fait vous allez pas être content et vous allez nous chier dessus dans les commentaires en fait pour,
mais vaut mieux rester sur votre bon souvenir si vous l'avez pas revu depuis 20 ans
c'est ce que j'aurais dû faire moi en fait parce que je me disais merde parce que moi je suis alors ce film en fait il n'est sorti que en DVD vaguement chez MGM aux États-Unis tu le trouves chez Shout Factory en Blu-ray. Alors, tu revois le film comme ça, tu te dis, ah, putain, je vais me le reprendre et tout. Ben, en fait, finalement, non je vais pas me le reprendre.
Non,
quoi.
Non.
Et donc voilà, c'est un zone A, hein, de toute façon, le Blu-ray américain. Donc, si vous n'avez pas de lecteur dézoné, vous ne pourrez pas le lire. Je ne crois pas qu'il soit sorti en France, en tout cas, je ne l'ai pas vu passer. Mm-hmm. C'est un film qui est un petit culte, en fait, pour les gens comme nous qui l'ont découvert à l'époque. Pas comme toi, mais comme moi, en tout cas, si tu veux, qui ont pu le découvrir à l'époque. Si vous voulez rester sur cette idée-là, moi, à mon avis, vous feriez mieux de ne pas revoir le film. Maintenant, si ça se trouve, en fait, vous avez bien aimé, vous allez nous faire des commentaires.
Avec plaisir.
Voilà,
même si vous ne me convaincrez pas.
dans les commentaires, quoi. Voilà. Et puis.
Est-ce qu'American Ninja il est sorti en Blu-ray?
Alors, American Warrior, je crois qu'il est sorti en Blu-ray.
Voilà, pour un prochain stéroïde.
Non, mais l'American Ninja, oui, ça doit sortir, parce que ça, c'est des classiques. Tu vois, donc voilà, quoi. Merci, Yann.
Bah, avec plaisir.
Merci à la technique. Merci à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent depuis le début, à ceux qui typent en fait et qui nous aident à faire ces podcasts et pour défoncer Time Bomb, le pauvre film qui n'en demandait pas tant quoi. Si vous voulez nous soutenir, bah c'est sur Tipeee.com. Hein, les mots clés sont Capture Mag. Pour nous écouter, on a surtout migré sur Acast dernièrement, donc si vous voulez télécharger le MP3, c'est par là que ça se passe. Plus tellement sur le site. Le site attend une refonte. Il faut qu'on le refasse, quoi. Mais on reviendra dessus. Et puis sinon, bah, si vous écoutez ailleurs, il y a toujours les mêmes les agrégateurs de podcasts habituels, hein, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et moi, je vous dis à la prochaine avec peut-être American Ninja, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être une autre fois. Voilà.
Une autre fois.
Voilà. Merci à tous, à bientôt.